Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée sur les ondes de Boulevard, puis que la température était adéquate pour vous. Moi, avec le beau soleil qu'on a vu aujourd'hui, j'ai été agréablement gâté, puis c'est signe que le printemps s'en vient finalement. On pensait que le printemps, c'était là un mois, mais là, Dame Nature nous a créé quelques surprises avec des chutes de neige qui avaient pas de maudit bon sens à ce temps-ci de l'année. Et pour ce qui est des prochains jours, on sera dans le plus, donc toute cette belle neige là va fondre et à un moment donné, on va être en culotte courte, les amis. On n'abandonne pas. Ce soir, j'ai le plaisir de me passer 60 minutes en compagnie du docteur en neurosciences Joël Monzé. Salut Joël!
Salut!
C'est une grosse journée pour toi puisque tu fais une grande annonce. Tu parles de ton avis au gouvernement du Québec. Tu parles de l'usage immodéré des psychotropes chez les jeunes de 0 à 26 ans au Québec. Quel avenir pour les jeunes de leur génération? Là, tu as eu une journée médiatique aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le gouvernement du Québec n'a pas de raison de prendre acte de cet avis-là?
En fait, je pense pas qu'ils ne vont pas prendre acte en tant que tel. Je pense qu'il y a, au contraire, il y a une certaine écoute, surtout de la part de Lionel Carman, qui est en charge de services sociaux et de la santé mentale de nos jeunes.
Ils n'auront pas le choix, Joël, parce que quand on regarde les statistiques au niveau des médicaments, au Québec, là, on en donne beaucoup trop. Là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il va falloir que le gouvernement prenne action. Là. Puis il va falloir savoir pourquoi on donne autant de médicaments à notre monde. Là.
Mais en fait, c'est un peu ce que le rapport fait. Moi, ça fait une vingtaine, je faisais le bilan justement ce matin, ça fait 20 ans que je parle de cette situation-là. Ça fait 20 ans que je dis qu'on est en train de surmédicamenter nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de détresse, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Au contraire, ils ont besoin que nous, comme adultes, comme parents, comme intervenants, comme responsables d'institutions ou de gouvernement, on réponde présent. En fait, pour pouvoir arriver à les aider. En même temps, comme je disais, ça fait 20 ans et je vois dans les données que j'ai analysées pour pouvoir faire ce rapport-là que depuis 20 ans, ça n'a que fait que d'augmenter d'année en année. Et puis Yannick, tu sais, tu m'as interviewé souvent sur ce phénomène-là. Ouais. Ces dernières années, j'ai donné beaucoup moins d'entrevues parce que j'avais l'impression que je racontais toujours la même chose et j'étais un peu fatigué. Et j'ai eu besoin l'été dernier de plonger en fait dans ces données-là. J'ai demandé à la RAMQ pour avoir accès à l'information la plus récente possible. Et je me rendais compte avec des graphiques que je sors que oui, on n'a qu'une augmentation continue et il va falloir qu'on se retrousse les manches pour aider nos jeunes.
Okay. Moi, je suis pas un conspirationniste dans l'âme, là, mais je me pose tout le temps des questions. T'sais. Si, malgré le fait que tu interviens régulièrement dans les médias en disant « il me semble qu'on donne beaucoup de médicaments aux gens, que les choses changent pas », je me dis tout le temps « mais à qui ça profite tous ces médicaments-là qu'on donne, que d'ordinaire on n'aurait pas besoin de donner ?» Puis on va faire attention, il y a des gens qui ont vraiment besoin de leurs médicaments, mais on surmédicamente les Québécois. Puis à un moment donné, ben, si rien ne bouge, je me dis tout le temps, mais à qui ça profite? C'est-tu parce que la vie va trop vite, qu'on n'a pas assez de médecins, que les médecins sont tellement stressés qu'ils disent, regardez, on va donner des médicaments tout de suite. Pourquoi on en est rendu là? Pourquoi on a besoin d'un docteur en neurosciences, Joël Monzé, qui nous dit, là, faudrait s'arrêter quelques minutes puis regarder qu'est-ce qui se passe, puis voici mes recommandations.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de lobbies qui interviennent. Il y a des corporations, il y a des corporatismes. Si tantôt tu nommais le fait d'une pensée conspirationniste, moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a une conjonction d'intérêts. Il y a des gens qui souhaitent avoir plus de parts de marché. Bon, si je suis le big boss d'une compagnie pharmaceutique, mon objectif, c'est de vendre, en fait, le mieux possible pour que mes actionnaires soient heureux. Et souvent, les actionnaires vont me demander d'avoir un minimum de 15% d'augmentation de mon chiffre d'affaires pour pouvoir garantir des dividendes potentiellement intéressants. Okay? Beaucoup de ces groupes-là, en fait, sont des actionnaires, ce sont des fonds de pension. Donc, quelque part, nous avons tous une part de responsabilité parce qu'on veut tous avoir une belle pension en tant que telle. D'accord? Donc, quelque part, c'est une question d'ordre général. Puis, il ne faut pas reprocher à l'industrie de faire sa job. Par contre, il y a des enjeux de régulation. Tu sais, comme je te disais tantôt, ça fait 20 ans que je dénonce la situation et de manière régulière, puis tu as déjà interviewé des personnes qui ont des avis opposés au mien, de manière régulière, on dit « Ah, ben nous, on diagnostique mieux qu'ailleurs. »
Ouais.
OK. C'est bien beau. J'ai accepté au départ. Tu sais, quelque part, on est tous à essayer d'apporter notre pierre pour construire un édifice. Chacun a sa vision des choses et pourquoi pas. Le seul problème, c'est que il y a une étude du CIREA qui est sortie il y a environ un an et qui a démontré, en fait, que les plus jeunes de la classe sont généralement plus souvent diagnostiqués TDAH. On constate que, par exemple, les jeunes qui sont nés durant l'automne, il n'y a que 17 % des jeunes qui reçoivent un diagnostic, alors que c'est 22 % pour ceux qui sont nés pendant l'été. Et là, on va faire une comparaison avec une étude qui a été faite en France par Ponou et Thomé. Elle est sortie en 2022, donc plus ou moins au même moment. Et eux aussi, ils démontrent en fait que l'âge et surtout le mois de naissance de l'élève influe directement sur le fait qu'on donne ou qu'on ne donne pas un diagnostic à cette personne-là. Donc, il y a une transgression des lois biologiques qui font en sorte qu'un enfant se développe de manière importante et que de mois en mois, de trimestre en trimestre, il va y avoir des gaps, si tu veux, des sauts quantiques au niveau de sa maturation. Et si on ne respecte pas la biologie et le développement normal et naturel des choses, ben automatiquement, on va mettre une pression qui n'est pas nécessaire sur le jeune. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le responsabiliser. Au contraire, parce que responsabiliser notre jeune, ça fait partie de la solution, d'accord? Comme parent, comme intervenant, comme TES, comme enseignant, ok? L'autre chose aussi, c'est que la période où on voit le plus de prise de médicaments pour contrer notamment le TDAH, c'est la période de 10-12 ans, les examens du ministère. Donc, les examens du ministère vont avoir un impact majeur sur éventuellement la prescription de médicaments. L'enseignant a peur, le parent a peur, le jeune se désorganise éventuellement, il a de la misère à se concentrer, de la misère à se retenir quand il a envie de bouger, d'accord? Il n'aime peut-être pas la matière qu'on lui enseigne ou la manière dont on la lui enseigne, ouais. Mais on dit « Ah, c'est un problème neurologique d'origine génétique, donc on va le médicamenter », alors qu'on ne répond peut-être pas nécessairement à son réel besoin en tant que jeune.
Ouais, puis je veux m'adresser aux parents. Là, je comprends que ça peut être cruel des fois d'entendre ces statistiques-là puis de dire « Bon, vous auriez peut-être dû faire ci ou faire ça », mais c'est important de déterminer pourquoi nos enfants peuvent être un peu plus turbulents à l'école. Puis pour avoir des amis autour de moi qui ont dû donner des médicaments à leurs enfants contre leur gré, parce que mes amis ne voulaient pas donner des médicaments, mais vous avez de la pression de tout le monde, du directeur d'école, mm-hmm. Vous avez de la pression du professeur, vous avez la pression de votre enfant qui performe pas bien à l'école. Je comprends qu'en tant que parent, vous avez dit, ben moi, je suis pas médecin, fait que je vais le faire évaluer par un médecin, exemple, puis je vais avoir accès à ces médicaments-là, mais si votre enfant n'a pas besoin, c'est important de le savoir aussi, puis le gouvernement doit prendre acte de ça, puis de s'occuper de nos enfants convenablement plutôt que de donner tout le temps des médicaments. Puis là, je comprends qu'il y a des enfants qui doivent avoir des médicaments, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Puis moi, j'aime beaucoup tes recommandations. Est-ce que tu pourrais faire part aux auditeurs? C'est quoi les recommandations qui devraient être considérées à partir d'aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, par le gouvernement?
Mais écoute, la première chose, en fait, c'est que l'INES a été mandatée par l'Assemblée nationale de réviser les protocoles d'évaluation de nos jeunes au niveau de la santé mentale, surtout en ce qui concerne le TDAH. Actuellement, les médecins et les psychologues se basent sur des normes qui ont été établies en 2001. En 2019, je suis sorti avec 4 pédiatres, en fait, pour dénoncer le taux de prescription de psychotropes pour contrer le TDAH, d'accord? Ça a déclenché une commission parlementaire d'enquête et la conclusion, ça a été de demander à l'INES de réviser, en fait, les normes. 5 ans plus tard, il n'y a rien qui a été fait. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est que l'INES fasse son travail. Et de plus avoir une bonne idée, parce que l'autre chose aussi qui pose problème, c'est que les données que j'ai analysées, il y a d'une part, on part de services pharmacologiques, on ne sait pas exactement combien de patients sont à prendre. Il y a des patients, puis Yannick Vincent l'a dit à plusieurs reprises, qui prennent par exemple un médicament pendant la journée d'une durée de 8 heures, et puis prennent un deuxième médicament en après-midi quand ils rentrent à la maison. Donc, c'est deux services pharmacologiques, mais c'est pour la même personne. Cela dit, ça fait quand même qu'environ 12,5% de nos jeunes sont sous médication entre 10 et 15 ans. Donc là, il y a quelque chose qui est important. Quand on parle de réviser les normes, écoute, le gouvernement français vient de sortir un rapport à l'automne dernier où ils se sont basés sur l'analyse des données de la prévalence du TDAH à travers 400 laboratoires à travers le monde et disent que, de manière unanime, on ne devrait pas avoir plus que 6 % de jeunes qui ont un TDAH. Et nous, au Québec, on est entre 17 et 22 % selon le mois de naissance de nos jeunes. OK? Donc, quelque part, on se rend compte que l'évaluation du jeune ne correspond plus nécessairement à la réalité d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les critères sont beaucoup trop inclusifs. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est que l'INES réunisse différentes personnes. Il ne faut pas que juste que ce soit des médecins et des psychologues, parce que les enjeux corporatistes sont beaucoup trop importants, mais il faut inclure des psycho-éducateurs, il faut inclure des travailleurs sociaux, il faut même inclure des enseignants. Parce que parfois, quand un parent va voir un neuropsychologue, il fait une évaluation neuropsychologique, psychométrique, en fait, et les recommandations sont des recommandations qui tiennent la route d'un point de vue clinique, mais qui ne sont pas nécessairement applicables dans la classe. Ce qui veut dire que l'enseignant n'est peut-être pas nécessairement mieux outillé pour être capable d'aider le jeune en tant que tel. Ça augmente sa détresse, ça augmente son intolérance, et c'est tout à fait humain, d'accord? Parce qu'il y a un moment donné où il y a trop d'enfants en difficulté dans sa classe, et ça fait en sorte que ça va de moins en moins bien dans le groupe classe. Donc, la première chose, c'est vraiment de s'assurer que l'INES révise les normes d'évaluation du TDAH, mais il faudrait le faire aussi au niveau de la dépression, de l'anxiété et des autres symptômes qui peuvent être soignés par des médicaments. Une autre chose aussi qui viendrait de manière très importante, c'est transformer l'assurance médicaments publique en assurance santé. Pourquoi? Parce que si un parent a la chance de travailler dans une entreprise dans laquelle il y a une assurance collective, à ce moment-là, si son jeune a des difficultés, il peut aller choisir est-ce qu'il va prendre le médicament ou il va prendre préférablement de la psychoéducation, de la psychothérapie ou éventuellement du travail social ou d'aller chercher de l'aide psychosociale plutôt qu'une aide pharmacologique. Les gens, et c'est 30% de la population qui émergent sur l'assurance publique, n'ont pas le choix que d'aller vers le médicament. Donc ça, c'est une mesure que le gouvernement pourrait faire assez rapidement, c'est d'entamer une réflexion pour justement modifier l'assurance médicaments et élargir en fait l'assurance, la couverture, comme on a dans le privé. Et l'autre chose qui va aller totalement avec, c'est de donner un crédit d'impôt aux parents qui, quand ils vont consulter justement une aide extérieure, parce que le système de santé, malheureusement, il y a une liste d'attente et parfois le nombre de séances accordées à chacune des familles n'est pas suffisant que pour vraiment régler le problème de fond. Donc, à partir de ce moment-là, si le parent pouvait déduire les frais de psychothérapie, ça se fait déjà, mais aussi en psychoéducation, travail social, un orthopédagogue, tu sais, un enseignant qui parfois le soir va donner des cours particuliers à un élève ou l'autre, eh bien, pourquoi est-ce que le parent qui recourt à ce professeur individualisé, pourquoi est-ce que ce professeur-là, pourquoi est-ce que ce parent-là ne pourrait pas déduire les frais de ses impôts, ce qui ferait en sorte qu'on soutiendrait les parents pour qu'ils aillent chercher de l'aide et éventuellement on va outiller le jeune plutôt que de l'amener à consommer des médicaments.
Joël Monzé, docteur en neurosciences. Moi, je regarde ton avis, je l'ai lu. En fait, j'ai lu les grandes lignes, bien entendu, de ce que tu m'as envoyé. Je trouve ça franchement intéressant. Est-ce qu'on traite beaucoup trop l'anxiété chez nos jeunes? Est-ce que l'anxiété n'a pas été mise dans le corps humain pour une certaine fonction? Pourquoi faut toujours estomper cette anxiété-là? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Y a-t-il d'autres manières que de donner des médicaments à nos enfants pour essayer de régler ces problèmes d'anxiété-là? Puis, tu sais, je te pose ces questions-là parce que moi, j'ai pas les réponses, puis c'est pas un jugement envers les gens qui essaient de traiter l'anxiété, mais pourquoi il y a autant d'anxiété? Moi, tu sais, je me souviens des années 80, des années 90, c'est le genre de sujet qu'on n'abordait jamais. Puis là, aujourd'hui, de l'anxiété, on dirait que tout le monde souffre de l'anxiété. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu dans l'eau au Québec? C'est-tu comme ça dans le monde entier? Pourquoi l'anxiété prend autant de place aujourd'hui?
Mais en fait, c'est certain qu'il y a une évolution sociale que moi j'ai constatée. Tu l'entends avec mon accent. Je suis né en Belgique. Moi, ça fait une trentaine d'années que j'ai le bonheur de vivre ici. Mais j'ai vu la société en fait se transformer pendant ces 30 ans-là. La société est de plus en plus complexe, ce qui fait en sorte que la capacité d'adaptation des uns et des autres va être de plus en plus difficile. Or, ce qu'on sait par rapport au stress et l'anxiété, qui sont des réactions psychologiques et physiologiques tout à fait normales et nécessaires pour notre adaptation, tu sais, quand tu animes, par exemple, une émission, tu vas poser des questions, tu vas faire des pauses, tu crées des micro-stress chez la personne, ce qui fait en sorte que ça va interpeller ton auditeur. Ça fait partie des trucs d'animation.
En fait, je suis stressé. Professeur... Je suis stressé juste quand j'ai un docteur en neurosciences en entrevue, Joël.
En plus. Mais cela dit, le professeur, il va créer un stress en posant une question, en lançant un défi dans sa classe. D'accord? Le parent va encourager son jeune à faire un sport et à essayer de se dépasser. Donc, le stress à la base ou l'anxiété, qui est une anticipation qu'il y a des dangers qui pourraient arriver, qui pourraient survenir, d'accord? C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, tant et aussi longtemps que c'est quelque chose de ponctuel, que c'est concret, on est capable d'y réussir, d'y faire face. Le problème, c'est quand il y en a trop, et ça devient des dangers qui sont imprévisibles, qu'on ne peut pas nécessairement comprendre. Par exemple, on a eu la période de pandémie et puis beaucoup de gens ont eu très, très, très peur de mourir. Mais pour les communs des mortels, un virus, c'est quelque chose d'anxiogène. Pour moi, avec la carrière que j'ai, c'est quand je faisais mon doctorat, je travaillais avec des singes et les singes peuvent avoir une maladie qui fait en sorte que, on ne la détecte pas. Et deuxièmement, si jamais je suis mordu par mon singe et que mon singe porte cette maladie-là, je décède en 48 heures. Donc, si tous les jours, quand je vais au laboratoire, je me dis que je pourrais mourir à cause d'un virus, je ne vis plus. C'est impossible. Donc, je suis en paix avec l'idée, un, que je pourrais avoir un virus, et deux, que je pourrais éventuellement en mourir. Mais ceux et celles qui n'ont pas fait cette démarche-là, quand on leur a parlé pendant des mois et des mois qu'il y avait un risque, d'accord, de mourir à cause du coronavirus, mais c'est certain qu'il y a eu quelque chose de très anxiogène dans notre société. On nous a expliqué les dangers de mortalité que ça pouvait avoir pour les personnes plus vulnérables. Donc, automatiquement, c'est quelque chose d'imperceptible. Quand tu allais dans un magasin, tu regardais les gens travers, surtout s'ils étaient un peu trop proches de toi, s'ils se mettaient à tousser, s'ils avaient éventuellement un petit peu de transpiration, d'accord? On était en aguet de toute une série de signes qui nous informaient qu'éventuellement, il y avait un danger. Mais les enfants se retrouvent régulièrement dans ce genre de situation-là. Et ce n'est pas nécessairement le virus qui va leur faire peur quand ils sont en école, mais ça peut être l'intimidation, ça peut être le jugement des autres, ça peut être, tu sais, mon garçon nous disait, je viens en fait de changer de plan de... Je vais faire de la publicité, mais je ne suis pas payé par ces organisations-là. Je viens changer en fait d'iPhone et j'ai donné mon ancien iPhone à mon fils. D'accord? Et mon gars est tout heureux parce qu'il s'en va à l'école avec un iPhone, ce qui était son rêve d'avoir un iPhone, puis il en a besoin aussi pour son travail. Mais il me disait, hey, on va enfin arrêter de me dire que j'ai un Samsung dans la main. Donc, parce qu'il avait un Samsung. D'accord? Donc, les jeunes font plein de blagues qui ne sont pas nécessairement drôles, mais qui, de manière régulière, viennent affecter l'estime de soi.
Ben oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu recommandes au gouvernement, en fait, tu dis que c'est crucial de revoir la loi visant à lutter contre l'intimidation et la violence à l'école. Pourquoi? Puis quel impact que ça peut avoir?
Parce qu'en fait, on est beaucoup trop dans une approche qui est victimisante, qui ne sert pas ni l'enfant qui subit les comportements inadéquats de ses pères, ni les pères qui ont des comportements inadéquats. La plupart des jeunes n'ont pas envie d'être méchants, même s'ils sont méchants. Beaucoup de jeunes, par exemple, surtout au primaire et en maternelle, ne se rendent pas compte de l'impact psychologique que certains de leurs mots, certaines de leurs blagues peuvent avoir sur les autres. Donc, il y a une question d'éducation qui est très importante là-dedans, d'accord, et de sensibilisation aux uns et aux autres. L'autre chose, c'est que la plupart des jeunes qu'on va taguer aujourd'hui d'intimidateurs ont été intimidés d'une manière ou d'une autre dans le passé, soit par un autre jeune, par un grand frère, par une grande sœur, par quelqu'un dans le quartier, mais parfois aussi par des adultes. La plupart des gens, quand on fait des mesures disciplinaires, on intimide nos jeunes. Combien de fois des adultes font des blagues qui n'ont pas de sens, que le jeune va prendre au premier degré, qui vont le meurtrir parce que nous, on croit que c'est comique, mais le jeune, lui, le prend comme une atteinte à son intégrité. Et quelque part, si le jeune se sent continuellement écrasé dans un environnement problématique, d'accord? Et je dis bien, les adultes ne se rendent pas nécessairement compte toujours de ce qu'ils peuvent dire ou faire qui va venir blesser ou affecter l'estime de soi du jeune. Eh bien, une des réactions de survie qui est tout à fait naturelle, on est encodé comme ça parce qu'on est des primates, d'accord? Eh bien, veut, veut pas, c'est d'inverser en fait, la manière de se comporter, et c'est d'essayer de jouer les gros bras, les alphas, face à d'autres qu'on va essayer de trouver comme victimes en tant que telles. Donc, ce que nos jeunes ont besoin, c'est pas qu'on détermine « toi, tu es un intimidateur et toi, tu es une victime ». Ils ont besoin qu'on les aide à régler les conflits d'une manière pacifique. Et donc, c'est un apprentissage de régler les choses de manière pacifique. Mais pour ça, il faut que nous, comme adultes, quand on est dans un conflit avec nos jeunes, il faut qu'on ait une attitude de bienveillance. Si on est dans une attitude de bienveillance, on n'est pas dans un rapport d'intimidation. On va responsabiliser le jeune pareil, mais au moins, on ne lui apprend pas ce qu'on ne voudrait pas qu'il reproduise au quotidien avec ses copains et ses copines.
OK. Et comment on met en place justement ce que tu recommandes dans ton rapport? C'est un environnement peut-être un peu plus propice à l'apprentissage des compétences sociales, émotionnelles, qui favorise un développement plus sain et équilibré pour les élèves. T'sais, pour le commun des mortels, pour moi qui est un père de famille, j'ai deux gars, ça pourrait être concrètement comment cet endroit-là qu'on va créer, là?
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, puis je le dis beaucoup dans toutes les formations que je donne dans le milieu scolaire et dans le milieu de la santé, c'est que la santé mentale de nos jeunes est interdépendante de la santé mentale des adultes qui en prennent soin. C'est tantôt, on parlait du stress et de l'anxiété. Quand on est face à une situation qui devient chronique parce que papa et maman se séparent, parce qu'il y a des difficultés financières, parce que on est dans une situation familiale ou sociale qui est plus compliquée, le stress devient chronique. Si le jeune peut s'appuyer sur au moins un adulte en qui il a confiance, à ce moment-là, le stress lui permet de développer ses ressources et sa résilience. S'il n'y a personne pour lui ou qu'il a l'impression qu'il n'y a personne pour lui, d'accord? À ce moment-là, le stress devient toxique. L'anxiété devient toxique et la santé publique américaine démontre de plus en plus que la plupart des maladies chroniques qu'on observe chez l'adulte, le déclencheur, c'est le stress et l'anxiété qu'on vit dans notre enfance et notre adolescence. Donc, c'est vraiment important. Mais si je reviens, c'est que dans une situation de stress chronique, et ça peut être une année scolaire, ça peut être les examens, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation entre les parents, d'accord? S'il y a une solidification du jeune et que le jeune se sent vraiment aidé et appuyé, à ce moment-là, il est capable de passer à travers ça. Donc, la santé mentale des adultes est très importante pour aider nos jeunes. Notre enfant, notre adolescent, il ne vit pas dans un bocal isolé de tout le monde. Il fait partie d'un système et nous faisons comme adultes partie de ce système-là. D'accord? Donc, plus on prend soin de nous en tant qu'adultes, plus on développe des belles ressources pour être capable de vivre nos émotions et d'affronter les stresseurs tant bien que mal. Et on peut s'entendre que de temps en temps, on va trébucher, on va se tromper, mais c'est juste une autre occasion d'apprendre et de développer un autre moyen de s'en sortir. Mais plus notre santé mentale va être bonne à nous, les adultes, et plus on va être capable d'aider les jeunes. Et là, de nouveau, la pandémie a été très instructive par rapport à ça. Pourquoi? Parce que il y a eu deux CI3S qui ont fait des enquêtes en 2020, d'accord, sur la santé mentale de nos ados. Et ils se sont rendus compte, en fait, que le degré de détresse était passé de 30-35% à 70% de jeunes en détresse, d'accord, à cause du premier confinement. Il ne faut pas oublier que les adolescents ont quitté l'école le 12 mars et ne sont retournés à l'école que fin du mois d'août. Donc, pendant 7 mois, ils n'ont pas été en contact avec leurs copains et leurs copines. Et on s'entend que pour des ados, c'est compliqué parce que le réseau social vient remplacer progressivement le réseau familial. Ça fait partie de leur développement. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a 30% d'ados qui ont été capables de maintenir le cap et de maintenir leurs bonnes habitudes de vie et d'avoir une capacité de s'adapter à la situation, c'est la qualité des liens qu'ils avaient avec leurs parents. Donc, quand les parents étaient capables d'être solides et de bien accompagner les ados étaient capables d'utiliser leurs ressources. Quand malheureusement les parents se laissaient envahir par toutes les peurs et toutes les angoisses qui nous ont habités collectivement à ce moment-là, eh bien on voit à ce moment-là que les jeunes allaient de moins en moins bien. Et l'autre donnée qui était très intéressante toujours à cette même période, c'est que quand on a fait la réouverture des classes pendant 6-7 semaines à la fin de l'année 2020, d'accord? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-François Roberge à l'époque, qui avait réuni un comité d'experts autour de lui pour essayer de l'aider à trouver les meilleures stratégies possibles pour aider nos élèves. Et en fait, ce qui nous est arrivé des orthopédagogues, c'est que comme on avait les fameuses classes bulles avec une dizaine d'enfants par adulte, d'accord? Eh bien, on s'est rendu compte que même des jeunes qui avaient 2 ans de retard dans leur processus d'apprentissage scolaire, eh bien, ils avaient en l'espace de 6 semaines rattrapé le groupe. Donc, en diminuant les classes, en diminuant la taille des classes, je sais qu'actuellement, on est en train de mettre des aides élèves comme on a, par exemple, en Alberta et au Nouveau-Brunswick. C'est une solution, pour moi, transitoire qui est importante, d'accord? Mais de diminuer la taille des classes va faire partie de la solution pour que les enfants et les ados qui vont un peu moins bien puissent s'appuyer sur un professeur qui est solide, d'accord? Puis éventuellement, quand ça, puis le professeur le voit mieux fonctionner et voit mieux à quel moment il y a des signes avant-coureurs d'une difficulté plus importante qui pourrait survenir par après. Donc, ça demande une réorganisation potentielle. Alors, ce n'est pas demain matin qu'on va être capable de faire cette mesure-là, mais j'espère que dans 10 ans, on va réduire de 40% la taille de nos classes, tant au primaire qu'au secondaire.
Dans ton avis au gouvernement, tu parles de la loi sur l'intimidation qui implique d'éventuelles sanctions monétaires aux écoles. Est-ce que c'est déjà en place ou c'est ce que tu demandes ou c'est ce que tu dénonces?
En fait, cette loi-là, elle a été mise en place par les libéraux il y a quelques années. Okay. Et je crois que l'idée, ça partait probablement d'un bon sentiment. L'objectif du gouvernement libéral, c'était de forcer les écoles à avoir un plan d'intervention clairement défini et de s'assurer qu'on fasse réellement une lutte contre l'intimidation.
Mais à ta connaissance, y a-t-il eu des sanctions monétaires qui ont été demandées? Je pense pas.
Honnêtement, je ne le sais pas. Mais je sais que ça a été une contrainte parce que c'est certain que pour une école, il y a un stress qui est là et qui n'est pas utile. Puis l'autre chose aussi, c'est que parfois, le protocole qui va être mis en place, parfois, les élèves qui malheureusement vont attirer de l'attention négative en bousculant d'autres élèves, mais ils ont trouvé d'autres manières, en fait, de perturber leur père. C'est eux-mêmes qui se font passer pour des victimes. Et finalement, en dénonçant un tel, en fait, m'a intimidé, l'école n'a peut-être pas nécessairement toujours le temps et les moyens de faire une réelle enquête sur ce qui s'est passé. J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit certaines écoles vont avoir des difficultés. Et ce n'est pas pour rien que tu as eu deux parents, tu as eu un parent, une maman en Beauce et un parent dans le Grand Montréal, si je me souviens bien, qui ont explosé, qui sont allés, en fait, qui sont présentés à l'école parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir leurs jeunes qui étaient intimidés à l'école. Donc, les écoles pas nécessairement toujours les moyens pour pouvoir vraiment faire une action constructive. C'est pour ça que je dis qu'il faut transformer la loi et arrêter d'avoir une manière victimisante de considérer la situation.
Puis donner des outils à nos enfants pour faire face à l'intimidation, on en a souvent parlé, t'en parlais tout à l'heure, tu sais, d'avoir tout le monde là, dans la grande salle où on explique c'est quoi un intimidateur, c'est quoi un intimidé. Il y a des jeunes qui vont se reconnaître comme intimidés alors qu'ils ne savaient pas. Il y a des jeunes qui vont se reconnaître comme intimidateurs, puis les comportements qu'ils ont, qui s'en rendent pas compte, ils vont s'en rendre compte là. Puis c'est quoi les outils? C'est quoi les outils? Le pouvoir d'association aussi. Ceux qui sont peut-être un peu plus faibles peuvent s'associer pour aller voir l'intimidateur puis dire à partir de là, c'est terminé. Tu veux être dans notre gang, on te prend dans notre gang, mais là, nous, on est tanné de telle affaire. J'ai pas l'impression que ça se fait dans les écoles. C'est souvent de la dénonciation. C'est comme ça qu'on traite l'intimidation dans les écoles primaires et secondaires. C'est tout le temps de dénoncer, mais on donne jamais d'outils à nos enfants, Joël. On ne donne jamais d'outils pour faire face à ça.
Mais en même temps, comme je disais tantôt, si on peut apprendre, si par exemple l'éducatrice spécialisée qui intervient dans une situation où il y a une intimidation potentielle, si l'éducatrice, elle travaille avec les jeunes pour développer le sens des valeurs, la coopération, l'altruisme, ouais, l'entraide, OK? Et qu'il y a vraiment un accompagnement humain qui est fait là-dessus et qu'on ne va pas taguer l'intimidateur ou l'agresseur d'une manière indélébile, mais qu'on va lui dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu as besoin d'écraser des jeunes qui, techniquement, t'ont absolument rien fait? Ce jeune-là est en souffrance, oui, autant que le jeune qui subit. C'est pour ça que l'approche victimisante, elle n'est pas constructive, d'accord? Il faut vraiment changer notre manière de pouvoir intervenir dans des situations pareilles et amener le jeune qui a intimidé un des pères à comprendre sa part de réalité, comprendre sa part de responsabilité et développer d'autres manières éventuellement pour trouver sa place dans le groupe. D'accord? Parce que là aussi où tu peux avoir des jeunes qui ont tellement peur d'être intimidés qu'ils vont se mettre à intimider par mesure de protection. Donc là aussi, il y a une mauvaise compréhension des interactions les uns avec les autres. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir transformer sa relation à autrui.
Souvent, j'aurais tellement aimé moi, qu'on m'explique au primaire, au secondaire peut-être, où j'étais peut-être un peu plus en âge de comprendre, c'est quoi l'intimidation, c'est quoi un comportement toxique, pourquoi des gens font de l'intimidation, pourquoi certaines personnes peuvent avoir un comportement toxique. Tu sais, je pensais à ça quand il y a eu le fameux mouvement MeToo, Joël. Tu sais, le fameux mouvement MeToo a eu beaucoup de négatifs, mais il y a eu beaucoup de positifs aussi. Puis dans le positif, c'est que les hommes se sont posés des questions sur leurs agissements envers les femmes. Et ça, je trouvais ça positif. Tu sais, moi, j'ai jamais été victime, j'ai jamais été agresseur, mais je me suis dit, est-ce que j'ai tout le temps eu un comportement approprié avec mes collègues de travail? J'ai-tu déjà fait des grosses jokes déplacées qui auraient pu faire en sorte que l'autre personne, ma collègue, aurait été en souffrance par mes blagues que je faisais? Tu sais, il y a eu du bon dans ça. Mais quand j'étais jeune, Joël, tu sais, mon père n'a pas été présent, il est mort. Je dois certainement avoir adopté des comportements qui étaient nuisibles tant pour moi que pour les autres personnes qui me côtoyaient, puis je le savais tout simplement pas. Je m'en rends compte plus tard, alors que j'aurais tellement aimé ça qu'au secondaire, on me dise « voici pourquoi tu fais telle affaire ». Si j'avais été un intimidateur, j'aurais aimé me le faire dire. Écoute, il y a parmi vous des individus qui vont faire tel ou tel ou tel comportement, tel geste, ils vont avoir tel comportement, ils vont faire tel geste, puis voici pourquoi, il faut cesser de faire ça. J'aurais aimé ça qu'on fasse ça dans l'amphithéâtre au secondaire pour qu'on puisse
dire... Je pense que c'est pas dans l'amphithéâtre que ça va se faire, parce qu'en général, on est trop dans la généralisation quand on est dans un amphithéâtre. C'est l'intérêt d'une conférence pour des adultes, pour leur donner des outils. Je pense que ça, c'est quelque chose d'utile. Mais pour que le jeune puisse arriver à comprendre, c'est quelque part, il n'y a aucun jeune qui se lève le matin en disant qu'il va essayer de nuire aux autres. Ils ont juste besoin d'amour. Ils ont juste besoin de reconnaissance. Ils ont juste besoin de trouver leur place. Et si la manière dont ils ont l'impression qu'on va les aimer, qu'ils vont trouver leur place et qu'ils vont être capables de réussir leur vie, c'est en intimidant les autres, d'accord? C'est une mauvaise compréhension des interrelations sociales. Et ça se règle dans un lien de confiance avec un coach qui peut être présent. Ça peut être le coach en basket, en football ou en hockey, d'accord? Ça peut être l'éducatrice spécialisée. Moi, je rêve que les éducatrices spécialisées ne soient plus les personnes qui donnent les punitions dans les écoles, mais soient les personnes qui, éventuellement accompagnées par une travailleuse sociale pour avoir un suivi clinique, mais soient des personnes qui interviennent auprès des jeunes, qui créent des liens de confiance, qui créent des liens de sécurité. Et si le jeune, même celui qui a tendance à vouloir se prouver ou à prouver aux autres que c'est le mâle alpha de la gang ou la femelle alpha de la gang, parce qu'il y a de l'intimidation qui vient aussi de la part de certaines jeunes filles, d'accord, ben, et que l'éducatrice ou le coach ou le professeur lui dit, tu sais, as-tu remarqué ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a conduit à agir de cette manière-là? Est-ce qu'il y aurait d'autres stratégies que tu pourrais utiliser pour pouvoir arriver à trouver ta place dans le groupe? Mais ça, c'est un accompagnement humain. Et le côté humain, malheureusement, parfois, on se laisse complètement absorber par des enjeux administratifs, par des enjeux de performance, par des enjeux narcissiques, d'accord? Ce qui fait en sorte qu'on oublie complètement la relation humaine, la connexion. Tu sais, quand mes enfants, je leur demande de ranger, ben maintenant, ils sont plus grands, mais quand ils étaient plus jeunes, quand je leur demandais de ranger la salle de jeu, c'était 10 fois plus efficace si j'allais avec eux. Pourquoi? Pas parce que je fais le travail avec leur place, parce que je suis dans la connexion avec eux. La connexion, nos jeunes ont besoin de connexion. Et quand la connexion est bien installée entre un jeune et son parent ou son enseignant ou son coach, ça ne va pas enlever des drames comme ce que tu as vécu malheureusement quand ton papa est parti, mais s'il y a d'autres adultes dans l'environnement d'un jeune qui vit un drame comme celui que tu as vécu, qui permettent d'établir qui ont un regard bienveillant sur la trajectoire que le jeune va avoir, mais veut pas, on va avoir un changement de comportement. Tu sais, Yannick, on s'en est déjà parlé. Moi, j'ai grandi dans une famille totalement dysfonctionnelle dans laquelle la violence était omniprésente. D'accord? Tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et c'est très clair qu'à 12 ans, je me suis promis de ne jamais reproduire ce que j'avais vécu quand moi j'étais enfant. C'est peut-être pas pour rien que je parle de bienveillance et de régulation des conflits de manière pacifique. OK? Donc, quelque part, je suis allé chercher d'autres modèles. J'ai été regarder comment fonctionnent les parents de mes amis. Comment fonctionnent mes profs? Comment fonctionnent les personnes en autorité? Et les gens avec lesquels moi je me sentais le plus en confiance, tant au primaire qu'au secondaire, c'est la direction d'école.
OK.
Parce que c'était une autorité saine. J'ai eu la chance d'avoir des directions d'école
ouais.
extraordinaires qui voyaient le petit bonhomme que j'étais, qui même s'ils ne savaient pas ce que je vivais à la maison parce que j'en parle à personne, d'accord, mais qui m'ont donné des défis. Et surtout au secondaire, je me suis embarqué dans des projets humanitaires et j'ai trouvé ma place de cette manière-là.
Joël Monzé, est-ce que nos enfants ont assez de modèles à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire? Puis je te fais une confidence, mon plus vieux et mon plus jeune dans la voiture m'ont dit qu'ils étaient très contents d'avoir un professeur d'éducation physique qui évoluait chez les Beaucerons, une équipe de hockey qui est très populaire en Beauce, là. Et les deux semblaient très au fait de la carrière autre de leur professeur d'éducation physique et semblaient le prendre comme modèle. Puis tout de suite, j'ai entendu qu'il y avait énormément de respect de mes enfants envers ce professeur-là. Je sais pas si c'est un si bon professeur que ça, mais ce que je sais, par exemple, c'est que mes gars l'ont pris en modèle à l'école, puis semblent vouloir reproduire ce modèle-là, c'est-à-dire un gars qui est capable d'avoir une belle carrière, mais aussi des petits à côté, comme jouer au hockey de façon professionnelle, entre guillemets. Est-ce que dans nos écoles au Québec, au primaire et au secondaire, les petits gars sont oubliés pour ce qui est des modèles? Il semble y avoir de moins en moins d'hommes dans les écoles, dans les établissements. Est-ce que ça peut être une problématique aussi pour nos jeunes garçons?
Oui, ça fait partie de la problématique d'identification. Puis je crois que ce n'est pas nécessairement parce que ce sont des femmes qui enseignent qu'il y a nécessairement une difficulté. Je te donne un exemple. Moi, j'ai été dans une école mixte au début de ma scolarité. Et puis en deuxième année, je suis allé dans une école qui était unisexe garçon, d'accord? Puis c'était la mode à ce moment-là, ce qui fait que les écoles sont devenues mixtes. Donc l'école de garçons dans laquelle j'étais est devenue une école mixte. Mais on se sentait, nous, petits garçons, beaucoup plus en sécurité avec des enseignantes qui avaient l'habitude de fonctionner avec des garçons plutôt que des enseignantes qui avaient l'habitude de fonctionner avec des filles.
Ah.
D'accord? Parce qu'il y a une manière différente d'être. Je crois qu'on a perdu notre manière. Je crois que le mouvement MeToo était très important, mais il y a eu aussi une génération d'hommes roses qui ont été l'antithèse de l'homme alpha, qui ne sont pas nécessairement des modèles qui ont aidé les enseignantes qui sont actuellement dans nos écoles à avoir ces quoi un modèle masculin où l'homme est capable de pouvoir assumer pleinement sa masculinité et le fait d'être un homme à part entière, d'accord? Donc, c'est ces modèles-là qui ont manqué aussi à la génération des enseignantes. Donc, quelque part, quand tu disais, oui, il faudrait des modèles, moi, je pense qu'une enseignante peut, j'appuie volontairement sur le syllabe, mais une enseignante peut être aussi un modèle pour un petit garçon si cette enseignante-là est respectueuse, honnête, intègre, qu'elle intervient de manière bienveillante, pour qui la justesse et la justice est importante, elle peut autant être un modèle pour un petit garçon, d'accord? C'est pas une question de sexe être un modèle. C'est vrai que peut-être que le garçon va bouger un peu plus et d'avoir un prof d'éducation physique et un hockeyeur professionnel, ben ça peut être le fun, mais une femme peut être aussi bien un modèle pour un garçon.
Ouais.
C'est une question de valeur. Donc plus les enseignants, et je dis bien les enseignants et les enseignantes, d'accord, font attention à intégrer les valeurs au quotidien, plus ça va faire en sorte que les jeunes vont avoir le lien, vont avoir la connexion avec eux et vont se sentir beaucoup plus en sécurité. Et s'ils sont plus en sécurité, ils vont vivre moins de stress et d'anxiété chronique, ou tout au moins ça va être tolérable ou plus tolérable, et ça va faire en sorte que le jeune va être capable de se développer de manière adéquate. Mais si l'adulte, enseignant comme parent ou comme coach, est pris par des enjeux lui-même au niveau de la complexité de notre société, le stress de vie, la peur de mourir, et ainsi de suite, ben, veut pas, ça ne fait pas des modèles qui sont très solides, et ce qui fait que le jeune, lui, il va pas pouvoir s'appuyer sur l'adulte qui prend soin de lui, il va manquer à ce moment-là de sécurité. Il y a Marc Pistorio qui vient sortir un livre extraordinaire sur, il vient de réactualiser en fait les théories de Bowlby sur le lien d'attachement et l'importance du lien d'attachement, d'accord? Mais si je reviens avec un lien d'attachement qui est solide entre un élève ou entre un enfant et l'adulte qui prend soin de lui, eh bien à ce moment-là, son cerveau peut se développer. Si son cerveau peut se développer, ben il va développer les ressources nécessaires pour gérer ce qu'il a à gérer au quotidien. Il n'aura pas besoin de médicaments.
Parce que tout à l'heure, je te parlais de modèle, puis là, effectivement, tu sais, je veux dire, toi, tu as plus de recul, là, tu es un observateur, mais moi, de mon côté, j'avais l'impression que les jeunes agissaient beaucoup par mimétisme, donc l'importance d'avoir des modèles pour eux qui étaient des modèles positifs. Mettons qu'on parle pour un jeune garçon, bien, de savoir que moi, mes gars, ils regardent le professeur d'éducation physique qui a bien réussi dans la vie, puis en plus, bien, il aime le sport. Tu sais, mes enfants l'ont, ils le prennent comme si c'était un héros, tu sais, dans leur système scolaire, puis ils le regardent, puis ils m'en parlaient, puis c'était la première fois que je ressentais qu'il y avait de l'admiration pour une autre personne que leur père. Tu sais, quand ils me disent, hey, papa, on est content, on t'a vu jouer au décoquer, t'as fait un but pour nous autres. Là, ils m'ont parlé d'un autre homme, puis c'était à l'école, c'était la première fois qu'ils m'en parlaient, Joël, puis tu m'as déjà dit, Yann, les enfants agissent par mimétisme, là. T'sais, si ces jeunes-là sont bien accompagnés, qui ont un bon cercle d'amis, qui ont de bons professeurs, de bons modèles, ils ont des grands meilleures chances, je pense, de réussir que ceux qui n'ont pas de modèles, qui n'ont pas des bons professeurs puis qui n'ont pas des bons parents, là. Il y a quelque chose de logique dans tout ça.
Oui, et qui n'ont pas nécessairement des perspectives d'espoir aussi. C'est pourquoi est-ce que nos jeunes vivent tellement d'éco-anxiété? C'est parce qu'on n'arrête pas de leur dire que le monde va s'effondrer. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Quand moi, j'étais jeune, à l'école primaire, on nous disait qu'il y aurait plus de pétrole en 1990. OK? Bon, j'étais au primaire dans les années 70. Puis on nous a dit qu'il y aurait un trou dans la couche d'ozone, ce qui fait qu'on allait tous carboniser avec les rayons du soleil.
C'est à cause des femmes.
Puis en même temps...
Les femmes qui se crêpaient, qui se crêpaient les cheveux avec du spray net, Joël.
Ça, je sais pas, j'étais pas trop au courant de ces choses-là.
Ça s'appelait l'effet de serre.
Les bombes atomiques.
Oui.
T'sais, on nous parle beaucoup de la guerre en Ukraine. Moi, j'ai grandi en Europe. À 30 km de l'Allemagne, pas très loin du mur de Berlin, du mur de l'Est plutôt, et veut pas, vivre avec l'angoisse, c'était quelque chose qui était là. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes sont en contact avec l'information en continu avec Internet ou les chaînes d'information continue. Ce qui veut dire qu'à force de tout le temps parler des drames qui pourraient éventuellement un jour arriver, eh bien, il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a rien de pire pour un individu que de grandir dans un environnement dans lequel il n'y a pas d'espoir. C'est destructeur, ce côté-là, et ça aussi, ça va venir affecter la santé mentale de nos jeunes. Pourquoi est-ce que j'étudierai à l'école? De toute façon, dans 5 ans, on sera mort.
Wow! Ouais, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi.
Dans tes recommandations... Donc, c'est nous, les adultes, à changer notre discours.
Exact. Ben ouais, là-dessus, tu connais un peu mon discours par rapport au changement climatique. Je pense qu'effectivement, il y a des changements climatiques depuis que la Terre a été créée. Ce qui reste à déterminer, c'est le pourcentage de la part de l'homme dans tout ça. Mais jamais je ne crierai à la catastrophe, tu sais. Puis l'humain a toujours été capable de s'adapter. C'est pas vrai que l'être humain va avoir le dessus sur la Terre. La Terre va toujours l'emporter d'une manière ou d'une autre. Elle l'a fait depuis des années et des années, depuis sa création. Mais c'est vrai que quand on regarde le discours de certains médias, tu te dis, ben, il y a peu d'espoir qu'on soit ici dans 100 ans, là, quand on invite toujours les mêmes personnages qui disent tout le temps, ben là, la Terre va se réchauffer, vous allez tous mourir, il n'y aura plus de nourriture pour personne, il n'y aura plus d'eau. Attendez un peu, je pense qu'on peut, s'adapter. Mais t'as entièrement raison là-dessus, puis je souhaite que le gouvernement t'écoute, puis je souhaite aussi que plusieurs médias t'écoutent. À un moment donné, il faut faire la part des choses. Dans tes recommandations, tu veux que le gouvernement envisage aussi le retour des formations professionnelles et techniques dès le secondaire pour offrir des études pragmatiques et orientées vers le milieu de l'emploi. Ce n'est pas déjà le cas?
Non, parce que souvent, les jeunes qui vont aller vers un métier plus manuel, comme on va dire, que ce soit pour les jeunes filles qui pourraient avoir une préférence sur la coiffure ou l'acupuncture ou des soins corporels, ou pour les garçons qui ont tendance, on s'entend qu'il y a des filles qui vont du côté construction, puis des garçons qui vont du côté plus soins corporels, d'accord? C'est souvent, en fait, après avoir vécu de nombreux échecs à l'école. Je crois que dans les années 60, ça a été une bonne idée de se dire, OK, on va amener tout le monde au cégep. Le seul problème, c'est qu'on a fait un cursus qui est beaucoup trop rigide, qui contraint en fait tout le monde de faire presque la même chose au même moment. Et on devrait revenir peut-être même à partir de la 6e année primaire, je descendrai peut-être aussi bas que ça, d'accord, au moins qu'on puisse avoir de l'initiation en 6e année primaire, mais surtout à partir de la première secondaire, d'avoir la possibilité d'aller chercher des formations professionnelles. Tu sais, Yannick, tu sais que j'ai été psychothérapeute pendant longtemps, j'ai arrêté ma carrière clinique il y a 2 ans parce que je manquais de temps à cause de toutes les formations que je donne à gauche et à droite. Donc, je ne pouvais plus suivre des personnes qui étaient fragiles ou des jeunes, mais ça reste quand même, si tu savais, le nombre de fois que j'ai eu des jeunes adolescents qui pleuraient parce qu'ils me disaient, mais moi, je veux faire tel métier, je veux être coiffeuse, je veux être menuisier, je veux être électricienne, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on me demande de faire des calculs qui ne serviront à rien? Pourquoi est-ce qu'on me demande de lire des livres qui ne m'aident pas à mieux comprendre qui je suis éventuellement? D'accord? Je ne dis pas que la lecture des grands romanciers n'est pas utile, mais peut-être qu'on devrait l'amener seulement à ceux qui veulent faire une formation peut-être un peu plus philosophique. Pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas nos cours de mathématiques? Écoute, quand j'ai construit ma maison, j'étais le mandaï de service, j'étais le helper de service, j'étais fasciné de voir comment les menuisiers et les charpentiers travaillaient. C'est une maison de type ancestral qu'on a construite. Il y a un génie là-dedans qui est extraordinaire, mais je voyais tous les concepts de mathématiques qu'on peut enseigner à travers justement la construction d'une maison. Donc pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à des jeunes d'avoir des cours de mathématiques et des cours de français, mais d'être capable de faire une soumission, d'être capable de pouvoir tenir comment dire, des fournitures de manière adéquate, d'être capable de lire un contrat ou de faire un contrat, d'accord? D'avoir une bonne orthographe, parce que même si on est menuisier, quand on a une bonne orthographe, ça fait bonne impression. Donc, ce n'est pas une question de. Le menuisier est autant capable d'écrire correctement, d'accord? C'est pas une diminution. L'objectif, ce n'est pas de diminuer nos exigences scolaires. L'objectif, c'est d'orienter l'enseignement en fonction des intérêts des gens. Quand un jeune n'a pas d'intérêt dans un cours, il ne fonctionne pas. Écoute, moi je me souviens quand j'étais en première année secondaire, j'avais à l'époque où j'étais encore en Belgique, on avait un cours de latin. Je m'embêtais, j'en avais rien à foutre du latin. Par contre, l'histoire des Romains m'intéressait. Mais on me demandait de faire des traductions d'une langue morte et j'avais aucun intérêt. Moi, je voulais faire le profil sciences maths. D'accord? Par contre, j'ai plein d'amis qui tripaient sur le côté latin-grec. Donc, les gens qui voulaient faire de la philosophie, devenir prof ou développer le côté plus sciences humaines, les cours de latin-grec répondaient beaucoup à leurs besoins. D'accord? Mais on avait, dès la première année secondaire, on touchait à différentes choses et après, on s'orientait dès la secondaire 2 vers des filières, d'accord, en termes de cours. Mais à partir du moment où un élève est intéressé, il y a une motivation intrinsèque. Il n'y a plus de problème de discipline. Le jeune s'auto-responsabilise, il aime le cours. Si en plus le prof qui est devant lui est tripant, tu sais, on a tous rencontré des mademoiselles C ou des monsieur Keating dans notre parcours scolaire. Donc les professeurs, quand ils sont tripants devant la classe, ils mobilisent leur groupe. Donc quand ils arrivent à les intéresser, le jeune, le TDAH disparaît. L'anxiété disparaît. Donc l'idée que ce soit un trouble neurologique d'origine génétique, c'est un abus de langage.
Incroyable. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de jaser avec Joël Monzé. On va continuer un petit peu après la pause, si vous le voulez bien. Joël Monzé, c'est un docteur en neurosciences. Il est aussi de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Il publie aujourd'hui, sur les ondes de boulevard, un avis au gouvernement du Québec. Son avis, c'est l'usage immodéré des psychotropes chez les jeunes de 0 à 26 ans au Québec. Quel avenir pour les jeunes de cette génération-ci? Donc, on fait une courte pause. On peut toujours aller sur ton site web, Joël?
Oui, en fait, si les gens veulent accéder en fait aux documents, c'est sur institutdef.ca. Donc institut D comme développement, E comme enfant, F comme famille, .ca. Et vous allez voir dans la section publication, vous devriez avoir accès en fait aux documents intégral et à son résumé si vous ne voulez pas lire le rapport en entier.
Touchez pas à ce piton-là, on revient dans quelques secondes. Mon invité de ce soir, Dr Joël Monzé, docteur en neurosciences. Joël, c'est un bon 60 minutes. À chaque fois que tu te présentes sur les ondes de boulevard, on apprend énormément de choses. Et ce que j'aime, c'est le retour des auditeurs qui disent « Hey, j'ai écouté ton entrevue avec Joël Monzé. Où est-ce que je peux avoir accès à ses livres? Est-ce que je peux avoir une conférence de Joël Monzé? » Tout le temps, beaucoup de questions par rapport aux entrevues qu'on a ensemble. Puis ce soir, ben, l'avis au gouvernement du Québec que tu envoies. Je trouve ça exceptionnel que tu prennes la peine de faire ce genre d'avis-là. Comment ça prend de temps monter ce type d'avis-là? Puis est-ce que le gouvernement va prendre acte de ça et doit prendre acte de ça?
En fait, le temps que ça prend, tu sais, tantôt quand je te disais que j'avais fait des projets humanitaires pendant mon secondaire, ça avait permis en fait de le jeune adolescent que j'étais, l'adolescent que j'étais, de trouver sa place dans notre monde. Pour moi, l'implication humanitaire a toujours fait partie de ma vie. Donc, c'est du bénévolat ce que je fais. D'accord? Puis tu le sais, on en a reparlé au début de l'émission, ça fait 20 ans que je dénonce en fait la situation et je pense que ça doit faire quelques années, peut-être depuis la sortie qu'on a faite avec les pédiatres, que j'avais plus parlé nécessairement de TDAH spécifiquement et de prescription de psychotropes, d'accord? Et en même temps, ben, je voulais avoir une bonne idée de où est-ce qu'on en était. Donc, j'ai analysé les données que j'ai reçues en fait à la fin de l'été et ça a pris quand même pas mal de temps parce qu'il y a toute une analyse mathématique qui est en arrière. Et puis, je ne voulais pas non plus donner simplement des données comme ça pour la xième fois qu'il y a une surprescription. Je voulais qu'on dise, OK, concrètement, où est-ce que ça coince? Parce que, tu sais, toi, tu disais tantôt, les gouvernements doivent prendre acte, et je dis les parce que je pense à toutes les provinces du Canada, d'accord? C'est que, oui, les gouvernements de plus en plus prennent acte de la situation. J'étais une bibite bizarre il y a 15 ans quand je parlais de bienveillance. Aujourd'hui, je ne suis plus une bibite bizarre. Les gens se comprennent au niveau des ministères que c'est important. Il y a des travaux qui se font, je participe à ces travaux, il y a d'autres personnes que moi qui le font, comme Gide Royer, par exemple, une personne qui est très connue,
Oui.
d'accord? On est plusieurs à être impliqués dans des beaux projets. Le problème, c'est l'interface entre ce qui se passe au niveau du gouvernement et ce qui se passe auprès de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est là que les enjeux corporatistes interviennent de manière importante. Je te donne un double exemple. Quand tu as un médecin qui a une compréhension globale de la santé mentale, si, d'accord, il y a une plainte contre lui comme quoi il n'a pas donné de médicaments, il va se faire taper sur les doigts par son syndic. Pas par le collège en lui-même, mais par le chien de garde, en fait, de la sécurité du public. C'est un syndic. Ils font des enquêtes comme les policiers, d'accord? Et eux, ils pensent que la médication, c'est quelque chose de très important. Donc, on doit donner des médicaments. Donc, beaucoup de médecins vont avoir peur de ne pas prescrire de médicaments parce qu'il y a plus de risques de se faire taper sur les doigts par le syndic en ne prescrivant pas de médicaments qu'en prescrivant des médicaments. On a la même chose chez les psychologues. On a le syndic de l'ordre des psychologues qui a un comportement très problématique par rapport à tous les psychologues qui ont une vision globale de la santé mentale. Et c'est comme si on devrait uniquement se baser sur les tests neuropsychologiques tels qu'ils sont utilisés actuellement au Québec. Et puis, je t'ai expliqué tantôt avec les données qu'on a, 6% sur l'ensemble de la planète Terre, mais 17 à 22% au Québec. Et les psychologues et les psychothérapeutes qui remettent en question la manière dont on procède actuellement vivent malheureusement des moments très difficiles quand ils sont sous enquête auprès du syndic. Ça ne devient pas nécessairement une plainte, mais le stress que les gens vivent. Écoute, en nutrition, c'est la même chose. Tu pourrais parler avec des nutritionnistes, ils vont faire la même chose. Des orthophonistes aussi, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. D'accord? On a un problème actuellement avec la manière dont les syndics interprètent les bons actes professionnels. Et heureusement, Sonia Lebel est en train de faire réviser la loi des professions et ça va peut-être amener en fait à mettre en place des contre-mesures parce qu'actuellement, les syndics ne sont régulés par personne. Les ordres professionnels ne peuvent pas réguler les syndics. Donc, ils se sont créés une niche, d'accord, toute puissante. L'autre chose aussi, c'est le Collège des médecins interdit aux médecins d'être payés de manière directe par des compagnies pharmaceutiques. Alors, ils ont trouvé, en fait, je veux dire, l'industrie a trouvé une manière alternative de faire ça, c'est que l'argent passe par des boîtes de com. D'accord? Ça, c'est une enquête que j'ai faite, une double enquête que j'avais faite dans les années 2000 avec deux groupes de journalistes différents. OK? Et on s'est rendu compte, en fait, que l'entreprise donne de l'argent à une boîte de com et la boîte de com paye à ce moment-là le professionnel pour qu'il donne son avis dans le public, dans une conférence, avec les médias et ainsi de suite. Et comme il ne dénonce pas le conflit d'intérêts dans lequel il est ou l'apparence de conflit d'intérêts dans lequel il est, il peut induire chez monsieur, madame, tout le monde une mauvaise compréhension de la santé mentale et des ressources que l'on a au niveau naturel. Donc, de nouveau, ça ne veut pas dire que si un parent a décidé de donner un médicament, que ce soit un antidépresseur, tu sais, si un jeune de 12 ans ou 14 ans ou 15 ans parle de suicide, l'antidépresseur fait partie de la panoplie d'outils pour aider ce jeune-là. Mais il ne faut pas ne donner qu'un antidépresseur. Aller voir un psychoéducateur, aller voir un coach, aller voir un psychothérapeute, ça va faire partie des stratégies où que le parent se rend disponible. Tu sais, moi, je passe beaucoup de temps avec mon garçon qui aujourd'hui a 14 ans. De manière régulière, on part ensemble, on fait une activité ensemble. L'année dernière, on a traversé le Canada tous les deux, à deux reprises. Je ne dis pas le nombre d'heures de discussion qu'on a eues dans la voiture, lui et moi, mais mon jeune, il sent son père présent.
Ouais.
Il va faire la même chose avec ma blonde pour dans d'autres circonstances. Donc, il sent sa maman présente. Donc, à ce moment-là, quand il y a des enjeux, il vit comme tous les adolescents ces enjeux, mais il y a une présence qui est là. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Mais si le parent pense que le problème est d'origine génétique, il ne va pas se remettre en question. Il va avoir vraiment l'impression que la seule manière d'intervenir, c'est d'utiliser un outil pharmacologique. Et de nouveau, dans certains cas, il faut passer par l'outil pharmaco. Tu sais, si, j'ai déjà eu des patients qui étaient schizophrènes. Sans médication, je ne peux pas faire mon travail de clinicien. Donc, la médication, elle fait partie de la panoplie. Mais là, on est dans une maladie psychiatrique. Et peut-être que le jeune va en prendre toute sa vie des antipsychotiques. Mais est-ce qu'on doit donner des antipsychotiques à une jeune fille de 16 ans qui est en panique parce qu'elle a peur de ne pas être recrutée pour aller faire son futur métier d'avocate ou de médecin ou de vétérinaire?
Ouais, okay.
Parce que ce sont des programmes très contingentés. L'autre chose aussi qui t'a changé, c'est que maintenant, pour être psychologue, il faut un doctorat. OK? Eh bien, tu as 9 étudiants sur 10 qui font leur bac en psycho qui ne peuvent pas poursuivre leurs études. Tout simplement parce que les professeurs se servent des étudiants au doctorat comme techniciens de recherche. C'est normal, c'est la procédure, d'accord, dans l'université. J'ai été, entre guillemets, en tant qu'étudiant boursier, j'étais un technicien dans un laboratoire et mes recherches étaient intégrées dans ce que mon patron voulait qu'on fasse. D'accord? Mais le problème, c'est que tu as 9 personnes sur 10 qui ont peut-être de belles compétences cliniques qu'on laisse sur le carreau. Donc, moi, je crois qu'on doit revenir à la maîtrise en psychologie, quitte à ce que certains actes, comme la différence on a avec les médecins, où tu as des médecins de famille et tu as des médecins spécialistes, on pourra avoir des psychologues de famille et des psychologues spécialistes, et que les psychologues spécialistes aillent chercher des connaissances à travers un doctorat qui leur permettent d'aller plus loin que faire de la psychologie de famille,
ouais.
Mais qu'on se retrouve avec un bassin de psychologues qui répondra mieux aux besoins de la population.
J'adore tes recommandations, j'adore ta façon de voir les choses. Joël Monzé, c'est toujours un plaisir. Malheureusement, l'émission est déjà terminée. On invite les auditeurs qui veulent avoir accès à tes livres que tu as écrits sur ta page web joelmonzé.com. Puis je te souhaite de passer une belle fin de soirée, c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup Yannick, à une prochaine fois. Salut à tout le monde.
Joël Monzé, merci. Bye bye. Nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée puis on se rejoint demain 11h pour